que es de duas coisas boas, c'est une expérience que j'apprécie beaucoup d'avoir à parler à un auditoire de dames aussi nombreux. C'est la première fois que cela m'arrive, puisque dans les conférences, il m'est arrivé de donner, j'ai eu un auditoire composé, comme il se voit généralement, d'hommes et de femmes. Et en voyant un tel auditoire, je ne puis m'empêcher de vous faire part d'un souhait. Le souhait que dans les pays musulmans, il se produise la même chose qu'il se produit ici, à savoir qu'il y ait des femmes aussi nombreuses pour aller en quête de culture, comme vous le faites, avec une totale liberté. Cela, malheureusement, ne se fait pas encore pour des raisons nombreuses. Peut-être me poserez-vous des questions à l'issue de cette conférence, puisque c'est un aspect, justement, de l'exercice des libertés dans les sociétés musulmanes. Le titre de cette conférence nous amène à considérer la liberté et les libertés dans les sociétés musulmanes. Il faut, dès le départ, comprendre pourquoi le singulier et pourquoi le pluriel. Cette distinction, en effet, est une distinction moderne, récente. Et de notre temps, on préfère parler des libertés, c'est-à-dire de réalité concrète exercée par les citoyens, beaucoup plus que de liberté au singulier, qui pendant des siècles, et dans la tradition occidentale depuis les Grecs, a constitué le sujet d'une spéculation philosophique continue. Et cette spéculation philosophique a influencé la réflexion sur la notion de liberté dans deux directions principales, la direction philosophique justement qui nous vient des Grecs, et la seconde direction, influencée par la réflexion grecque, qui est la direction religieuse. Ces deux directions ont existé dans la tradition musulmane, de la même façon. Nous en parlerons. Nous considérons donc d'abord cet aspect de réflexion sur la notion de liberté dans la tradition islamique, et nous considérons dans une deuxième partie, dans un deuxième temps, l'exercice des libertés dans les sociétés musulmanes contemporaines. La notion de liberté ne s'est pas posée comme telle dans la tradition islamique. Je veux dire que le mot même de liberté en arabe, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous dire le mot arabe, puisque la plupart d'entre vous ne connaissent pas la langue, mais enfin, le mot lui-même n'a pas été utilisé dans la langue arabe comme il est dans la tradition, encore une fois, occidentale, pour désigner cette attitude que l'homme ressent devant les conduites qu'il peut avoir dans sa vie, attitude qui lui permet de se prononcer sur le choix entre diverses propositions et entre diverses attitudes devant les problèmes de la vie et devant les conduites dans la vie. Chez les Arabes avant l'islam, cette notion de liberté a été vécue surtout comme une soumission à ce que les Arabes appellent le destin. Et les Grecs aussi d'ailleurs ont une notion extrêmement forte de cette notion de destin. Le destin, c'est le temps, c'est le mot qui est utilisé pour traduire ce rapport que l'homme a avec les nécessités qui pèsent sur lui. Les nécessités de la vie et de la mort, les nécessités des contraintes sociales, le fait de vivre en société, et aussi des nécessités du climat, qui sont ressentis d'une manière particulièrement dure dans une société qui, comme vous le savez, est une société essentiellement dominée par le climat désertique et une terre désertique. Cela impose des nécessités dans la vie qui sont très fortement ressenties par tout le monde, par tous les habitants du désert. Et ces nécessités ont déterminé chez les hommes un sentiment vécu de la non-liberté devant justement le poids du climat qui, par exemple, oblige les hommes à parcourir de très longues distances lorsqu'il n'a pas plu pendant de très longues périodes, à parcourir de très longues distances à la recherche d'une meilleure distance pour les troupeaux, ce qui est la condition même de la survie des populations, et par conséquent, il y a là un sentiment de contrainte extrêmement fort qui est éprouvé par les hommes et qui est rendu par ce mot très puissant, très puissamment connoté de destin auquel les hommes se trouvent soumis. Et ce destin est vécu et ressenti comme une nécessité qui a donné cette observation chez les Occidentaux qui parlent et qui ont parlé de fatalisme chez les Arabes et ensuite les musulmans. En réalité, cette notion de fatalisme a été perçue surtout de façon négative par les observateurs occidentaux des pays arabes et musulmans, dans la mesure où les Occidentaux vivent dans une terre qui ne les soumet pas aux contraintes physiques, géographiques auxquelles je viens de faire allusion. En réalité, cette fatalité n'est que l'attitude réaliste des hommes devant des puissances de la nature contre lesquelles ils ne peuvent rien. Il y a là donc une expérience existentielle des hommes et des femmes qui s'est développée, encore une fois, dans des conditions géographiques, dans des conditions géographiques, géologiques. Donc il faut connaître la réalité en vivant dans cette terre-là, et donc on ne peut pas avoir une idée assez précise lorsque on se trouve dans une terre et dans un climat entièrement différent. Quoi qu'il en soit de cette expérience très rigoureuse et très forte du destin, l'événement important qui va modifier le rapport de l'homme au temps et le rapport de l'homme à l'espace, sous l'angle de l'expérience de la liberté ou de la non-liberté, cet événement, c'est évidemment le corps, l'intervention du corps. En effet, le Coran va changer le regard de l'homme sur lui-même et sur le monde. Ce regard qui était jusque-là déterminé par l'immersion de l'homme dans la nature où il vit et dans l'affrontement des difficultés que cette nature impose à l'homme, le Coran va diriger le regard vers Dieu, la puissance divine, la volonté divine. Et à partir de là, la réflexion sur la notion de destin, la réflexion sur la notion de liberté que l'homme peut avoir dans son existence terrestre va totalement changer. Dans quel sens va-t-elle changer? Elle va changer dans la prise de conscience progressive d'une relation avec un Dieu créateur qui a pris l'initiative de créer l'homme et de conférer à l'homme un certain privilège par rapport aux autres êtres créés par lui, privilège qui se traduit, vous le savez, c'est exactement la même chose dans la relation que l'homme vit dans la religion chrétienne, privilège qui se traduit par la révélation. la notion de révélation. Dieu, par une initiative gratuite, a parlé aux hommes. Et il a parlé aux hommes pour leur donner un enseignement qu'ils n'avaient pas, et pour leur donner des éclaircissements sur ses volontés lorsqu'il a pris cette initiative de créer l'homme, de créer le monde, etc., et de révéler la signification de tout cela. Et cette révélation, il ne faut pas croire, comme cela était là courant dans la perception, là aussi, que les Occidentaux ont de l'islam, il ne faut pas croire que c'est une révélation particulière aux musulmans qui se trouvent inclus dans le corps. Cette révélation n'est que la continuation d'une révélation commencée dans ce que les chrétiens appellent l'histoire du salut, et qui, dans la perspective coranique, est commencée avec la révélation faite à Abraham. De sorte que c'est toute l'histoire biblique telle que vous la connaissez qui se trouve reprise, récapitulée par la révélation faite dans le Coran, et cette révélation faite dans le Coran ne fait que, selon la croyance musulmane, que quand il était et apporter une dernière touche, si je puis dire, aux révélations antérieures qui ont été faites aux prophètes antérieurs. Par conséquent, la relation que l'homme va être appelé à vivre avec Dieu ne différera pas de la relation à laquelle juifs et chrétiens étaient déjà habitués dans ce qu'ils avaient reçu dans les révélations précédentes. Et la notion, par conséquent, de liberté de l'homme va se développer et va être vécue à un niveau non plus matériel, quotidien, au sens physique que j'ai énoncé tout à l'heure, mais au sens essentiellement spirituel. Puisque la vocation de l'homme, désormais, va être ressentie sur un plan spirituel beaucoup plus que sur un plan matériel. Et la notion de responsabilité de l'homme devant les choix qu'il fait de chacun de ses actes de conduite ne sera pas déterminée par la considération des relations que les hommes ont entre eux dans la société, ou bien par la considération des contraintes diverses qui peuvent s'exercer sur l'homme dans sa vie quotidienne, mais premièrement, cette responsabilité va constamment être déterminée par la relation que l'homme développe et vit avec son Créateur, avec Dieu qui lui a parlé. Vous voyez donc que la notion de responsabilité morale qui va conditionner toutes les normes de droit qui vont être énoncées par la suite par les théologiens musulmans, cette notion de responsabilité morale est essentiellement une notion de responsabilité spirituelle, religieuse, qui est articulée à une idée très forte, là aussi comme chez les chrétiens, l'idée très forte de la résurrection, de la vie éternelle après la mort. Autrement dit, les conduites de l'homme dans la vie ne sont pas considérées comme nous faisons, nous, modernes, aujourd'hui, à partir de la responsabilité, ce que nous appelons par exemple la responsabilité civile, la responsabilité juridique, mais je les considérais à partir de la vision dynamique que l'homme a de la vie éternelle après cette vie-ci, et c'est la vision qu'il a de la vie éternelle qui va influencer ses choix dans la conduite qu'il va avoir dans la vie, dans sa vie terrestre. Cette notion de liberté et de responsabilité vécue en rapport avec Dieu a déterminé tout au long de l'histoire de la pensée islamique, c'est la théorie. Donc, je ne vais pas vous infliger la description parce que c'est beaucoup trop compliqué et trop abstrait. Et je pense qu'il sera beaucoup plus intéressant de nous étendre sur, comme je le disais, les libertés telles qu'elles sont vécues dans les sociétés actuelles. Je voudrais cependant vous dire, avant de quitter ce premier paragraphe consacré à la notion de liberté, je voudrais vous dire une chose qui est peu connue la connaissance, dans la perception que les Occidentaux ont de la pensée et de la culture islamique, c'est que les débats instaurés autour de la notion de liberté, de la notion de responsabilité de l'homme devant cet acte, ces débats-là ne diffèrent pas de ceux qui ont été connus dans la tradition philosophique et théologique occidentale. Ainsi, par exemple, la philosophie grecque, qui avait déjà débattu de ces problèmes, vous le savez sans doute, peut-être vous en attendez à parler, la philosophie grecque a exercé sur les penseurs théologiens musulmans une très grande influence à Bagdad, à Damas, dans les grandes villes musulmanes du Moyen-Âge, à Tirouan, à Fès, à Cordoue, puisque c'est là que se sont répandues les traductions en arabe des grands textes de la philosophie grecque, d'Aristote et de Platon en particulier. Or, ces mêmes textes de la philosophie grecque, comme vous le savez, ont également influencé la théologie chrétienne au Moyen-Âge, par l'intermédiaire d'ailleurs, très souvent, des philosophes et des théologiens arabes qui avaient connu cette philosophie grecque avant qu'elle ne fût connue ici en Occident. Puisque chronologiquement, je vous rappelle que le démarrage de la spéculation théologique et philosophique musulmane a eu lieu avant son démarrage ici en Occident. En nouveau, les dates qu'il faudrait retenir pour fixer un peu le cadre chronologique de ce développement sont les suivantes. Je vous rappelle que le prophète est mort à Médine en 632, et en 661, il y a une grande dynastie qui est fondée, une première grande dynastie qui est fondée à Damas, en Syrie, c'est la dynastie des Omeyyades, et déjà avec cette dynastie-là, commence une ouverture vers justement l'héritage de la pensée grecque qui était connue en Syrie-Palestine avec toute l'activité philosophique et théologique développée par les pères de l'Église d'Orient chrétien qui étudiaient la philosophie et la théologie dans des textes grecs et des textes syriaques, le syriaque étant une des grandes langues de civilisation de ce temps-là, avant l'intervention de la langue arabe comme langue de civilisation. De 661 à 755, cette dynastie qui a régné donc à Damas, en Syrie, a déjà fait rayonner un grand nombre de courants philosophiques et théologiques qui seront davantage développés encore avec une deuxième grande dynastie que je ne fais que mentionner, mais qui a joué un rôle considérable dans le développement de la culture arabe en général, et sous le rapport du problème qui nous occupe des discussions philosophiques sur le libre arbitre et la prédestination, c'est la dynastie des Abbasides, qui a régné à Bagdad de 755 jusqu'à, en nouveau, 1258, 13e siècle. Par conséquent, vous voyez que dès le 8e siècle, la deuxième moitié du 8e siècle, 750 environ, il y a déjà une expansion considérable de la pensée grecque dans tout le Proche-Orient. Et c'est sous l'influence de cette pensée grecque que va se développer la spéculation théologique musulmane qui va apporter une très grande importance à un problème qui sera repris par les théologiens chrétiens et qui est le problème de la prédestination et du libre arbitre. Et vous voyez comment le problème de la liberté, qui est examiné sous un angle Entonces, como acción hay don Ricardo de la filosofía, va a estar bien, don Juan Ricardo, don Ricardo, a usted va la revelación. La revelación est liée à l'existence du Dieu vivant qui a parlé aux hommes, et à partir de la notion de Dieu tout-puissant, de Dieu vivant, de Dieu créateur, se pose le problème de la liberté qui est laissée à l'homme devant ce Dieu qui connaît tout et qui a déterminé de toute éternité, par conséquent, le destin de chacune de ses créatures. Voilà un problème théologique typique qui est discuté en climat musulman, comme il sera discuté en climat chrétien, et je ne sais pas si vous êtes familier par exemple de la pensée de saint Augustin, qui a laissé de nombreuses grands écrits sur le problème de la grâce et de la prédestination, et ce problème de la grâce et de la prédestination va être repris en France au XVIIe siècle par la grande querelle entre les jésuites et les jansénistes sur le rapport entre le libre arbitre laissé à l'homme et la grâce que Dieu accorde ou n'accorde pas, et qui fait que par conséquent, l'homme est limité ou n'est pas limité dans ses choix. Alors, les penseurs musulmans ont apporté à ce problème des solutions extrêmement variées. Encore une fois, j'ai scrupule à m'avancer dans ce domaine-là, parce que ça nous entraînerait dans des analyses beaucoup trop technique, et j'ai peur de vous infliger un exposé qui pourrait ne pas répondre à votre attente. Mais si vous me posez des questions tout à l'heure, je pourrais vous donner des précisions sur cette spéculation qui nous a laissé une littérature extrêmement riche. Et encore une fois, je souligne, avant de quitter ce point, la situation intellectuelle commune dans laquelle on réfléchit les philosophes arabes, musulmans d'un côté, et les philosophes chrétiens de l'autre côté. Et juifs aussi, car la spéculation théologique juive s'est développée dans le même climat islamique, et il y a des penseurs juifs, comme Maïmoud par exemple, qui ont grandi en climat islamique et qui ont travaillé exactement dans le même climat intellectuel. Voilà une chose que l'on ignore, parce qu'on se représente toujours l'islam comme étant une religion tout à fait à part et tout à fait distincte de ce que l'on peut connaître du christianisme ou du judaïsme, ce qui est, encore une fois, historiquement, philosophiquement et théologiquement inexact. Comment se pose aujourd'hui ce même problème de la liberté? Je ne dis pas encore des libertés. Avant d'en venir à l'examen des libertés dans les sociétés musulmanes, il faut dire un mot sur la façon dont aujourd'hui les philosophes et les chercheurs affrontent ce problème de la liberté. Plutôt que d'affronter, comme cela a été le cas au Moyen-Âge et pendant toute la période classique, tant en Islam qu'en Occident, au lieu de l'affronter d'une façon plutôt abstraite, comme un concept abstrait, aujourd'hui, les chercheurs essayent de faire avancer ce problème de la liberté de l'homme dans les différentes sciences, telles que, par exemple, la biologie. Vous savez que les recherches en biologie, aujourd'hui, ont une importance considérable, et ont abouti à des résultats tout à fait spectaculaires, et que l'un des problèmes qui est discuté, non pas philosophiquement, abstraitement, mais dans le laboratoire, c'est-à-dire de façon concrète, c'est le problème que les biologistes appellent l'inné et l'être. Qu'est-ce qui est inné dans l'organisation de notre personnalité? Qu'est-ce qui est inscrit biologiquement dans notre chromosome et qui fait qu'il y a un programme qui se déroule dans notre vie du fait des chromosomes que nous avons reçus, et qu'est-ce qui est acquis au cours de notre existence, du fait de notre éducation, du fait de notre futur, du fait par conséquent de notre liberté. C'est là un problème considérable. Et encore une fois, vous voyez que ce problème est abordé de manière technique, en laboratoire, et non pas de manière conceptuelle, abstraite. Ça, c'est une direction. Une autre grande direction qui change complètement notre manière de réfléchir sur le problème de la liberté, c'est la sociologie. Là aussi, on regarde les hommes qui vivent en société et on analyse les forces qui agissent dans la société et qui déterminent toutes sortes de contraintes pour chacun des membres qui vivent dans la société et qui, par conséquent, sont beaucoup de limitations à l'exercice de ce que nous demanderions et de ce que nous ressentons en nous comme étant une revendication de liberté. Et voilà pourquoi les sociologues parlent beaucoup des déterminismes sociaux à l'intérieur desquels essaie de cheminer la liberté individuelle. Et il y a là aussi de grandes analyses et de grandes recherches qui sont consacrées au cheminement de la liberté individuelle dans le réseau de plus en plus compliqué de nos sociétés modernes avec l'immense réseau de réglementation, de normes, de forces, etc., qui s'exercent et qui font que l'exercice de notre liberté se trouve, selon les milieux sociaux, évidemment, plus ou moins limité. Ça, c'est encore une autre direction de recherche pour réfléchir de façon concrète, avec l'analyse des faits et des données, sur l'échelonnement de la liberté individuelle dans la société. Une troisième direction extrêmement importante qui est ouverte également par des recherches récentes, c'est la direction linguistique. La langue que nous parlons, quelle que soit cette langue, la langue que nous parlons nous contraint de cheminer et d'orienter notre pensée dans des directions que nous ne choisissons pas. Parce que nous ne pouvons pas les choisir du fait que nous avons assimilé un certain nombre de catégories de la pensée qui se trouvent inscrites dans la langue. Il y a donc là aussi un terrain de recherche sur les limitations de notre liberté du fait de notre rapport avec le langage que nous utilisons. Et ce que je vous dis là, bien sûr, est vrai pour tous les hommes et pour toutes les sociétés. Voilà pourquoi je le rappelle avant d'en venir à l'examen de la situation dans le cas particulier des sociétés musulmanes. On peut continuer ces analyses en parlant d'autres motifs de contrainte, par exemple l'histoire aussi fait peser sur nous un certain nombre de contraintes. Nous sommes des héritiers d'un passé et ce passé vit à travers nous et à travers nous nous impose des conduites que nous ne choisissons pas nécessairement. Il y a là aussi par conséquent des conflits entre l'exercice de la liberté individuelle et les données du passé dans lequel nous vivons. Et cela nous allons illustrer tout particulièrement justement pour les sociétés musulmanes actuelles. Nous reviendrons sur ces problèmes très intéressants, mais encore une fois assez compliqués, si certains d'entre vous posent des questions là-dessus. Voyons maintenant ce qui peut-être vous intéressera davantage, le cas des sociétés musulmanes contemporaines. D'abord, comment peut-on délimiter cette notion de société musulmane contemporaine? Dans l'espace, les sociétés musulmanes s'étendent depuis les Philippines jusqu'au Maroc. Je veux dire par là qu'il ne faut pas commettre l'erreur d'identifier les sociétés musulmanes aux sociétés arabes seulement. Les sociétés musulmanes dérogent de beaucoup le monde arabe. Bien sûr, les sociétés auxquelles nous pensons en priorité, ce sont les sociétés arabes, comme l'Afrique du Nord, comme l'Égypte, comme l'Irak, comme la Syrie, comme l'Arabie. Mais les sociétés non arabes, et qui sont musulmanes, et qui, du point de vue de leur population, sont encore beaucoup plus nombreuses que les sociétés arabes, sont plus importantes et doivent intervenir dans notre investigation. Et j'énumérerai très brièvement, par exemple, l'Indonésie. Y a eso es bueno. Et nous sommes un million, d'habitants le Pakistan qui a plus de 110 millions d'habitants, la Turquie, les musulmans du RSS, les musulmans de Chine qui sont également près de 15 millions en Chine, etc. Vous voyez par conséquent que la notion de société musulmane actuellement est une notion extrêmement étendue. Et il est évidemment hors de question de parler de toutes ces sociétés comme si le problème, par exemple, des libertés qui nous occupent se posait de la même façon pour toutes ces sociétés. Pour bien faire, pour être objectif, il faudrait prendre chacune de ces sociétés et étudier exactement l'évolution politique, l'évolution sociale, pour comprendre comment se pose dans chacun de ces cas le problème de l'exercice des libertés. Ceci du point de vue donc de l'espace et de la diversité des sociétés musulmanes contemporaines. Du point de vue du temps, qu'est-ce qu'il faut entendre par contemporain? Jusqu'à quelle date faut-il remonter pour définir la notion de société musulmane contemporaine? Bon, en gros, nous pouvons dire qu'on peut remonter jusqu'au 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est à partir du 19e siècle qu'une phase historique nouvelle s'ouvre pour l'ensemble de ces sociétés du fait de leur rencontre, souvent brutale, rencontre par la conquête souvent, avec l'Occident. Par exemple, l'Algérie est conquise en 1830. La Tunisie est occupée pendant le protectorat de la France sur la Tunisie date de 1880. Le protectorat de l'Angleterre sur l'Égypte date également de 1881, etc. Vous voyez par conséquent que c'est le moment où les nations occidentales, devenues assez puissantes, commencent à prendre possession de ces sociétés musulmanes, et en prenant possession de ces sociétés musulmanes, en prenant le contrôle politique et économique de ces sociétés, elles vont y introduire des facteurs d'évolution nouveaux qui n'existaient pas auparavant. Voilà donc la donnée historique qui nous permet de délimiter la notion de contemporanéité de ces sociétés par rapport à l'état que nous appellerions classique de ces sociétés, ou l'état traditionnel de ces sociétés, c'est-à-dire leur état historique et culturel avant l'intervention de la réalité économique et culturelle occidentale. Et pourquoi est-ce que ce critère de la rencontre avec l'Occident est important pour l'appréciation de ce qui va se dérouler en ce qui concerne l'évolution de la vie des sociétés, de la vie des citoyens et, par conséquent, de l'exercice de leur liberté? Bien, c'est important parce que l'intervention des sociétés occidentales va entraîner un bouleversement des conditions économiques et des conditions sociales qui avaient prévalu jusque-là dans ces sociétés. Le mode de production capitaliste va être introduit dans ces sociétés, non pas sous la forme d'une évolution propre à ces sociétés, mais sous la forme de ce qu'on appelle l'économie coloniale. C'est-à-dire que ces sociétés ne produisent pas leur propre évolution. Elles n'ont pas la liberté de décider de leur évolution économique, de décider de leur évolution politique. Ce sont les nations occidentales qui ont pris possession de ces pays-là, qui vont influencer le développement économique dans la perspective du développement économique des sociétés occidentales elles-mêmes. Par exemple, en Égypte, on cultive le coton. Ce coton va être exporté destruir al Estado ruso. O sea, no se espera un mundo tan, un segundo legislativo, un segundo régimen de transformación y un régimen de fabrique de textil. Voilà un exemple ici qui vous montre comment l'évolution économique des sociétés musulmanes ne se fera pas de l'intérieur, ne sera pas dirigée librement par ces sociétés elles-mêmes, mais est décidée par des puissances extérieures qui ont une stratégie économique favorisant le développement économique de ces sociétés elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'économie coloniale. Et ceci se généralise à toutes les sociétés. La Hollande fait la même chose en Indonésie. L'Angleterre fait la même chose en Inde. Etc. Nous pouvons continuer l'énumération. Voilà donc un problème qui va devenir de plus en plus important pour les ressortissants des sociétés musulmanes, qui pratiquement perdent toute initiative politique et perdent toute initiative économique dans leur propre société. C'est cette donnée majeure qu'il faut bien comprendre pour essayer de voir comment va se dérouler l'évolution depuis le 19e siècle jusqu'aux années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, 1945. Car la domination à laquelle je viens de faire allusion, de ces pays-là, de ces sociétés par les sociétés occidentales, cette domination va durer pratiquement jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, quelques dates pour vous rappeler et fixer les idées. L'Inde devient indépendante en 1949. L'Angleterre se retire de l'Inde après une lutte pour l'indépendance menée par Gandhi, Mahatma Gandhi, en 1949. Ce qui provoque l'éclatement de l'Inde, puisqu'il y a des musulmans qui restent en Inde, et il y a le Pakistan qui fait sécession et qui s'institue en état indépendant par rapport à l'Inde. L'Algérie commence sa lutte de libération en 1954 et ne deviendra indépendant qu'en 1962. Le Maroc et la Tunisie ne deviennent indépendants qu'en 1956, etc. Là aussi, vous pouvez continuer à avoir le développement historique de tous ces pays-là. Et ce qu'il faut retenir de là, c'est que le développement du phénomène colonial dans ces sociétés, qui a retiré l'exercice des libertés élémentaires aux populations, va contraindre ces populations à s'engager dans ce que l'on appelle les luttes de libération. Les luttes de libération contre les puissances coloniales. Et pendant toutes ces luttes de libération, on va développer une idéologie de combat qui va privilégier justement la notion de liberté. Mais la notion de liberté au plan collectif. Il s'agit d'une liberté nationale. Il s'agit de liberté de libérer la nation. Il ne s'agit pas de liberté individuelle. Ceci est très important pour comprendre ce qui va se passer dans les années 60 et 70, et maintenant les années 80 que nous sommes en train de vivre. Le problème des libertés individuelles n'est pas encore posé, parce que il faut d'abord conquérir la première liberté, qui est la liberté collective, la souveraineté politique vis-à-vis des nations coloniales. Et pendant toutes les guerres de libération, car chaque pays mène sa guerre de libération, et les guerres de libération dans les sociétés musulmanes ne sont pas terminées, puisque, comme vous le savez, il y en a une qui dure depuis 48 et qui n'est pas terminée, c'est la guerre que continuent de mener les Palestiniens. Ces guerres donc, de libération vont occuper la collectivité et poser le problème de la liberté de la nation, et non pas le problème devi perfetta di vivere. Lorsque les libérations nationales auront été acquises, on va pour la première fois s'interroger sur l'exercice des libertés individuelles. Et alors, à ce moment-là, se pose le problème de l'évolution interne de chacune des sociétés, et c'est à ce moment-là seulement que l'on peut considérer comment se pose le problème des libertés des citoyens à l'intérieur de chaque cadre national. Et alors, pour examiner cette évolution, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire cet examen pour l'ensemble des sociétés, on est obligé de prendre chaque société à part pour voir comment dans chaque cas il y a l'histoire particulière à chaque société qui va peser sur la façon dont les gouvernements nationaux qui prennent le pouvoir après les indépendances vont répondre à l'attente des citoyens au sujet des libertés. Nous n'aurons pas le temps, évidemment, d'examiner chacune des sociétés musulmanes pour justement montrer comment le problème a été résolu dans les différents liens. On peut retenir cependant un certain nombre de données que l'on peut retrouver un peu partout. Pour comprendre ce qui va se passer après, disons, les années 60, il faut peut-être rappeler de quelle façon les libertés qu'exerce le citoyen dans les sociétés occidentales, comment ces libertés ont été conquises, comment en est-on arrivé à jouir des régimes démocratiques dans lesquels vivent les démocraties occidentales. C'est une question historique qui est très éclairante, à la fois pour l'Occident et pour les sociétés musulmanes actuelles. Ce qui s'est passé en Occident, c'est que une classe sociale, à partir du 15e, 16e siècle, une classe sociale a progressivement pris de l'importance, de plus en plus d'importance. C'est la classe que l'on décrit généralement sous le nom de bourgeoisie. Le terme de bourgeoisie, dans le langage politique actuel, a des connotations évidemment polémiques. Et des connotations négatives. La bourgeoisie étant identifiée avec la classe conservatrice, la classe de droite, la classe qui, justement, exerce une certaine oppression sur d'autres classes moins favorisées. Ceci est le résultat d'une longue évolution. Je ne vais pas entrer dans les débats politiques actuels. Ce qui est important de comprendre, c'est que le rôle de la bourgeoisie naissante en France, en Angleterre, ici, en Allemagne, à partir du XVIe siècle, a été un rôle, justement, de conquête positive de nouvelles libertés. De quelle façon? Le pouvoir politique, jusqu'au XVIIe siècle et même jusqu'à la Révolution française, était exercé en rapport avec le pouvoir de l'Église. Le pouvoir politique détenu par le roi était subordonné à une légitimation qui n'était donnée que par le pouvoir ecclésial. Et le clergé avait un pouvoir économique et politique très important, qui, par conséquent, éliminait cette classe naissante et grandissante que constituait la bourgeoisie marchande, et bientôt capitaliste. Il va donc y avoir un combat, une compétition, pour la conquête de ce que l'on va appeler les libertés, Contoh laki-laki keluar, laki-laki juga dijadikan. L'exécution du roi Louis XVI en 1792 en France, cette exécution a une valeur symbolique puisqu'elle consiste à couper justement la notion de pouvoir et par conséquent à couper l'exercice des libertés par les citoyens de toute attache avec le pouvoir religieux, avec le principe de légitimation du pouvoir par l'Église. Puisque le roi, comme vous le savez, avant de monter sur le trône, devait être sacré. C'est-à-dire devait recevoir les sacrements qui conféraient une légitimité à ce pouvoir. Il y a là donc, vous voyez, une rupture historique, qui est une rupture à la fois symbolique, une rupture philosophique et une rupture politique, qui a été acquise grâce à la montée sociale et économique d'une classe qui, encore une fois, est la classe bourgeoise, qui, en Occident, a joui d'une continuité historique dont nous ne trouvons pas l'équivalent dans aucune société musulmane. Voilà le secret. Si nous passons maintenant en revue ces sociétés musulmanes depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, nous constatons que cette compétition qui a eu les effets que je viens de rappeler en Occident entre une bourgeoisie marchande, laïque, rationaliste et un clergé et une noblesse orientée plutôt dans une direction religieuse tout en ayant également des leviers économiques importants, cette compétition-là n'a jamais existé. Et par conséquent, la jeunesse sociale des libertés que nous voyons en Occident n'a jamais eu lieu du côté musulman, non pas parce que l'islam s'opposerait à toute naissance de libertés, comme on le dit très souvent, mais parce que, justement, comme je viens de vous le dire, historiquement, socialement parlant et économiquement parlant, la classe bourgeoise, les classes bourgeoises dans les sociétés musulmanes n'ont jamais joui d'une continuité historique suffisante pour aboutir à des révolutions, à des résultats auxquels a abouti la bourgeoisie en Occident. Il serait trop long de vous dire pourquoi il y a eu constamment des ruptures historique dans l'évolution de la classe bourgeoise qui ont existé, mais à titre purement précaire dans les sociétés musulmanes. On peut très brièvement indiquer que deux acteurs principaux se sont opposés à la progression de cette classe bourgeoise dans la société musulmane, un facteur externe qui est lié à l'intervention de populations étrangères dans le domaine arabe, dans le domaine arabo-islamique. Par exemple, à partir du XIIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle l'invasion mongole, les tribus mongoles venues de l'extrême-est asiatique et qui sont venues s'installer à Bagdad. C'est un moment historique considérable qui a provoqué une rupture économique, une rupture culturelle, une rupture politique dans l'histoire du Proche-Orient arabo-musulman. Et de la même façon, il y a une poussée de l'Occident qui s'est exercée sur cette même région du Proche-Orient à partir du XIe siècle avec les événements que vous connaissez et que l'on appelle les croisades. Nous voyons donc cette région du Proche-Orient qui est le cœur historique et culturel des sociétés arabo-musulmanes, la Syrie, Palestine, Irak, cette région-là, qui est extrêmement importante du point de vue du devenir historique de ces sociétés, nous le voyons soumis à une double pression historique de l'extérieur, une venant de l'Est, une venant de l'Ouest. C'est très important. Je ne vais pas le développer. cette question de l'homme de l'Ouest, d'ailleurs, ne cessera pas de se développer depuis les croisades, lorsqu'on voit le développement de l'histoire, elle ne cessera pas de se développer jusqu'au 19e siècle avec le phénomène colonial auquel j'étais allusion. Ceci donc, une raison, c'est la raison extérieure qui a empêché la promotion sociale d'une classe qui serait la classe motrice, créatrice d'institutions nouvelles et de conquêtes nouvelles de liberté. La deuxième raison, elle est interne. Et elle est, comme je vous l'ai dit au début, également essentiellement géographique. Lorsque vous considérez la carte, regardez la carte devant vous, depuis le Maroc jusqu'en Indonésie, toutes les sociétés où l'islam s'est implanté sont des sociétés où le phénomène désertique ou bien le phénomène sud-désertique, comme disent les géographes, joue un rôle considérable. Il y a partout coexistence d'une partie cultivable, utile, mais extrêmement restreinte, et d'un espace beaucoup plus grand, et généralement occupé par le désert ou le sud-désert. C'est parfaitement illustré, par exemple, par l'Afrique du Nord. Vous pouvez voir toute l'Afrique du Nord, depuis l'Égypte jusqu'au Maroc. La bande, par exemple, d'Égypte se réduit à la vallée du Nil. Et quand vous survolez l'Égypte en avion, c'est tout à fait frappant de voir un mince filet d'eau entouré de toute petite bande de verdure, tout le reste est absolument désertique. Or, ceci a des conséquences extrêmement importantes sur l'évolution sociale et sur l'évolution de l'économie. Pourquoi? Parce que cette coexistence de deux types de terres entraîne la coexistence de deux types de civilisations qui vont être antinomiques et qui vont lutter l'une contre l'autre. Une civilisation de type sédentaire, paysanne, et une civilisation de type pastoral. Et ces deux civilisations vont, tout au long de l'histoire, développer une instabilité fondamentale dans la plupart de ces pays. Et c'est seulement dans les temps modernes actuels que l'on commence à essayer de stabiliser, comme on dit, mais ça pose d'énormes problèmes, à stabiliser les populations pastorales qui sont liées à la vie du désert. Alors vous allez me dire, tout ceci n'explique pas ce à quoi nous assistons depuis un certain nombre, quelques années à vrai dire. Depuis surtout les années 70. Depuis les années 70, en effet, on assiste à une actualité qui surprend tous les observateurs occidentaux, une actualité qui se traduit par des mouvements qui atteignent une importance de révolution sociale considérable, comme celle de l'Iran, à laquelle sûrement vous pensez tous. Et vous allez me dire que ce que je viens de dire n'explique pas la tournure prise, par exemple, par la révolution en Iran, qui est une tournure, justement, absolument négative, en ce sens qu'elle va contre le développement des libertés. Ici, il faut faire intervenir un autre facteur dont je n'ai pas encore parlé, ou plutôt deux facteurs. Le premier est le facteur démographique, et le second est le facteur historique, mais historique qui dépasse la période, la courte période contemporaine que nous venons de décrire. Le facteur démographique d'abord. Vous n'ignorez pas que depuis les années, depuis exactement 1950, c'était assez intéressant par beaucoup d'égards. Depuis 1950, la population de toutes les sociétés musulmanes, toutes sans exception, a au moins doublé. Donc, en l'espace de 30 ans, un pays qui a, comme l'Algérie par exemple, 8 millions d'habitants en 1950, aujourd'hui il en a 19. Le Maroc, qui en avait 9, aujourd'hui il en a 20 ou 21. Etc. Ce phénomène démographique est extrêmement important pour l'exercice des libertés du citoyen. En effet, cette population qui est venue depuis les années 50 est d'abord une population extrêmement jeune, puisque elle a doublé depuis 1950. Cela veut dire que les plus âgés de cette population, de la moitié donc de la population, ont 30 ans. C'est une population extrêmement jeune. Or, une telle population jeune exerce une pression considérable par toutes les demandes légitimes que formule une population jeune. Il faut lui donner des habitations, il faut lui donner des écoles, il faut lui donner à s'habiller, il faut lui donner du travail. Or, tout cela suppose une capacité économique que, précisément, ces pays n'ont pas. Du fait, encore une fois, de leurs ressources qui, comme je viens de vous le dire, sont très limitées, et du fait aussi de leur économie, de leur système économique, qui, même après les indépendances politiques, est un système dépendant de l'étranger. Car il ne faut pas croire que parce que ces pays sont politiquement indépendants, ils sont pour autant économiquement indépendants. Ils continuent d'être fortement dépendants à l'égard de l'extérieur et à l'égard principalement des sociétés occidentales, puisque pour ce qu'on appelle le développement, le phénomène du développement, ils ont besoin d'importer des technologies, des machines, des instruments, des usines, etc. Et tout cela ne peut être qu'importé des sociétés occidentales. Par conséquent, ils sont structurellement dépendants du point de vue économique de leur rapport avec l'Occident. Voilà donc une population qui est extrêmement jeune, extrêmement dynamique, mais à laquelle on ne peut pas fournir des satisfactions qu'elle est en droit d'attendre de son gouvernement. Ce qui provoque des tensions sociales considérables et ce qui provoque effectivement ces mouvements auxquels nous assistons et qui sont des mouvements parfois violents qui aboutissent à des révolutions que les gouvernements ont beaucoup de peine à maîtriser. Et dans ces conditions-là, évidemment, il est extrêmement difficile de parler de l'exercice des libertés comme on peut en parler en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre ou dans ces pays qui ont commencé cette conquête, comme je viens de vous le dire, depuis bien longtemps. Le second facteur, c'est le facteur historique. Le facteur historique au sens culturel. Et ici intervient le phénomène islam, en tant que phénomène, non pas religieux, mais en tant que phénomène idéologique. Ici, j'introduis une distinction tout à fait capitale qu'il faut comprendre si l'on veut juger équitablement ce qui est en train de se passer dans les sociétés musulmanes. D'une façon générale, les religions n'enseignent pas uniquement des valeurs spirituelles élevées. Les religions, certes, enseignent des valeurs spirituelles élevées, c'est vrai. Mais elles sont en même temps des phénomènes sociaux, c'est-à-dire des phénomènes qui sont vécus dans les sociétés et qui sont manipulés par les forces sociales en présence et qui sont utilisés par les forces sociales pour des objectifs politiques. Ceci est vrai du christianisme, ceci est vrai du judaïsme, ceci est vrai de toutes les religions, et ceci bien sûr est tout à fait vrai de l'islam. Et le phénomène tout à fait décisif et massif auquel nous assistons depuis les années 60 et plus encore depuis les années 70, justement en raison de cet afflux de populations jeunes qui très souvent descendent dans la rue pour revendiquer toutes sortes de choses, le phénomène auquel nous assistons, c'est que cette population qui n'a pas la possibilité culturelle de comprendre le développement historique de cette société et de comprendre justement comment une religion peut devenir un instrument de manipulation idéologique, cette population utilise la religion, utilise le vocabulaire religieux, utilise des symboliques religieuses pour des revendications politiques, essentiellement politiques, c'est-à-dire pour des combats de type idéologique. Et c'est ici, par conséquent, que l'islam subit une transformation massive, puisqu'il passe de la fonction religieuse, proprement dit, qui est celle de la relation, comme je le disais au début, de la créature avec le créateur, celle de la relation spirituelle vécue dans la perspective de l'au-delà, de la résurrection, du rapport avec Dieu, etc., on passe de ce niveau religieux au niveau des luttes sociales, des luttes politiques, qui ne trouvent pas un langage laïque, un langage politique rationalisant, comme cela est le cas en Occident, ne peut utiliser que les références religieuses, les références islamiques pour traduire des revendications essentiellement politiques. Et voilà ce qui explique, par exemple, le phénomène, le grand phénomène iranien. Le grand phénomène iranien s'explique par l'existence d'un mouvement de modernisation qui avait été lancé depuis la révolution iranienne de 1905-1906, il y a eu une première révolution qui avait été faite par l'intelligentsia iranienne, aidée par les oulémas, c'est-à-dire le personnel religieux, qui en ce temps-là était ouvert justement à des réformes de type moderne. Première révolution de type moderne, qui a été faite donc depuis 1905, s'est développée progressivement, mais elle s'est développée sans tenir compte de l'accroissement de la population et de l'apparition de générations jeunes, nouvelles, qui ne pouvaient pas, pour des raisons culturelles, qui ne pouvaient pas participer à ce mouvement moderniste. Et cette nouvelle population a été au contraire très sensible au langage de type religieux que lui ont tenu ce qu'on nomme les ayatollahs ou les imams, c'est-à-dire les moulins religieux, le clergé, disons, religieux d'Iran. Ils ont été sensibles à ce langage-là parce que c'est le seul qu'ils peuvent effectivement entendre et parce qu'ils se sont reconnus, ils ont reconnu leurs revendications dans ce langage. Et voilà pourquoi il y a par conséquent une convergence entre le langage tenu par des religieux et l'apparition d'une population jeune qui n'est pas encadrée par des institutions dites modernes qui avaient été mises en place par le Shah. En gros, n'est-ce pas, voilà comment il faut essayer d'expliquer socialement l'évolution des événements auxquels nous assistons, et voilà pourquoi, par conséquent, il ne saurait être question de mettre au compte de l'islam une évolution que beaucoup de musulmans récusent d'ailleurs comme étant négative et comme étant due essentiellement à des forces sociales que les dirigeants iraniens ou d'autres dirigeants. Je vous cite le cas de l'Iran parce que c'est le plus spectaculaire et celui dont très souvent on parle, mais ce que je viens de dire pour l'Iran
vous pouvez le dire pour la Turquie, vous pouvez le dire pour l'Égypte, à laquelle vous pensez aussi du fait des événements récents, et où la situation se présente exactement de la même façon. Nous pouvons le dire également pour l'Irak, pour la Syrie, etc. C'est une situation absolument commune. Cependant, il y a des maîtrises politiques de la situation plus ou moins grandes selon que les gouvernements disposent de ressources monétaires suffisantes pour capter un certain nombre d'énergie et les orienter vers une activité économique assez dynamique. C'est le cas par exemple de l'Algérie, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas des États pétroliers d'une façon générale qui, grâce à leur richesse monétaire, arrivent à créer un certain dynamisme économique et arrivent par conséquent à donner à cette nouvelle génération des moyens d'investir leur demande et d'investir leurs énergies dans une activité économique qui cependant ne répond pas nécessairement à ces aspirations de liberté qui existent absolument dans toutes les sociétés musulmanes. Et je crains d'avoir trop parlé, je vais terminer justement par cette idée que la revendication des libertés, liberté de penser, liberté d'écrire, liberté de voter, liberté de désigner ses responsables, liberté de participer à la gestion de ses intérêts à tous les niveaux, de la municipalité, comme de l'arrondissement, comme du département, comme de la nation, mais principalement peut-être la liberté d'écrire, de penser, qui sont les plus précieuses, parce qu'elles concernent la vie de l'esprit, et parce que cette liberté-là a toujours était au centre des revendications de tous les mouvements politiques dans tous les pays, ces libertés, ces exigences de liberté existent dans tous les pays. Cependant, elles ne parviennent pas à s'affirmer au grand jour. Pour deux raisons. Ou bien parce que les gouvernements en place ne tolèrent pas justement cette liberté. Qui les menacerait. Dans la plupart des pays, comme vous le savez, c'est le régime du parti unique, c'est le régime de la presse unique, c'est le régime de la radio unique. Et donc, il y a une limitation de fait de l'exercice de ces libertés. Et cette limitation, on ne peut pas dire qu'elle est nécessairement voulue par les dirigeants. On peut considérer que la situation sociale est si explosive, la situation économique est si précaire et si difficile, qu'il est dangereux de donner aux citoyens un exercice des libertés comme cela peut se faire dans de vieux pays comme l'Europe ici, où, encore une fois, beaucoup de problèmes ont été résolus parce qu'on a eu beaucoup de temps pour les résoudre. On est parti depuis le 16e siècle. Nous n'oublions pas. Et n'oublions pas la concentration chronologique des problèmes dans ces pays-là. Je vous ai dit tout à l'heure que ces pays ont commencé à poser ces problèmes depuis 1960. C'est bien. Et on ne peut pas du jour au lendemain faire un travail en profondeur d'éducation des citoyens à l'exercice des libertés, alors qu'il y a des pressions sociales, des pressions économiques considérables auxquelles il faut essayer de faire face. Par conséquent, il serait faux de dire systématiquement que les dirigeants sont des oppresseurs et que, en refusant les libertés, ils exercent une tyrannie. Il faut considérer la situation dans son ensemble. Néanmoins, le fait est qu'il y a un parti unique, qu'il y a par conséquent une limitation des libertés. Ça, c'est une première limitation. Une deuxième limitation qui corrobore ce que je viens de vous dire, elle ne vient pas des dirigeants. C'est la limitation que s'impose, en particulier les intellectuels eux-mêmes, dans les pays musulmans. C'est l'autocensure accepté par les intellectuels eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ces intellectuels faisant une analyse sociale, historique, économique de la situation de leur pays, considèrent qu'effectivement, il est extrêmement dangereux pour ces pays d'exercer des libertés comme on les exerce dans des pays, encore une fois, qui ont pris tout leur temps pour les conquérir comme ils les ont conquis. Donc il y a ce phénomène qui existe, qui est très répandu, de l'autocensure acceptée par les intellectuels, qui limite la façon dont ils limitent volontairement leur façon d'intervenir dans le débat politique, leur façon d'intervenir dans le débat culturel, parce que, encore une fois, ils ne veulent pas gêner justement la recherche de solutions adaptées à des problèmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus urgents que ceux, du moins dans la phase actuelle, de l'exercice des libertés individuelles. Voilà, en gros, comment on peut présenter les choses. Je ne vous ai donné que les grandes lignes, évidemment, du problème, parce que c'est extrêmement large, mais je pense que ce que je viens de vous dire suffit pour susciter des réponses auxquelles je me ferai un plaisir de répondre, et en complétant ce que j'ai dit d'une manière un peu forale. Je vous remercie de votre attention.
Merci M. Arthur, vous avez exposé aussi de l'écran. Avant de passer aux questions qui seront peut-être nombreuses, je voulais vous rappeler que la semaine prochaine, Christian Lemoutier vient de nous conférence ici au Centre culturel à 8h le soir, et que cette conférence est ouverte à tout le monde.
Une main dans l'obscurité.
Monsieur, en Iran, la hiérarchie, le clergé a mené la révolution. Quelle est la situation du clergé ou la position du clergé dans un pays comme l'Égypte?
Oui. Alors, la notion de clergé, il faut d'abord la préciser. Il est plus légitime de parler des clergés en Iran qu'en Égypte ou dans d'autres pays musulmans. Alors il faut savoir, si vous ne le savez pas, qu'en Islam, dans la religion musulmane, il y a eu deux développements, deux grandes directions. Une direction que l'on appelle l'islam sunnite et une direction que l'on appelle l'islam chiite. Vous avez sans doute rencontré ces deux dénominations que je vais vous expliquer. L'islam chiite d'abord est surtout représenté en Iran. En Iran et en Irak, une partie importante de la population irakienne est également chiite. Dans le reste du monde musulman, on est surtout sunnite. Voilà pourquoi l'islam sunnite est dit islam majoritaire, parce qu'ils sont le plus grand nombre. Mais enfin, ça n'est pas le plus grand nombre qui a nécessairement la vérité. La question de la vérité, ça, c'est autre chose. En quoi consiste cette distinction? C'est une distinction historique et théologique. Bon, historiquement, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que c'est une histoire longue à raconter. La scission, en tout cas, a eu lieu très tôt au début de l'islam, au sujet du pouvoir politique, justement. En effet, le problème qui s'est posé aux musulmans après la mort du prophète était de savoir quelles sont les conditions religieuses que le successeur du prophète à la tête de la communauté doit remplir pour occuper la place importante de chef de la communauté. le prophète en effet avait exercé cette double responsabilité, à la fois politique et religieuse, et après lui, les musulmans, les premiers musulmans, ont essayé de réfléchir sur justement les conditions à remplir pour le successeur. Alors il y a eu une scission à cet égard entre ceux qui ont procédé de façon pragmatique, en évitant l'un d'entre eux comme successeur du prophète, et en le désignant parce qu'il avait justement des qualités, il était très proche du prophète, il était connu pour sa droiture, etc. Et puis, une autre fraction de musulmans qui avait dit que, qui soutenait que le successeur devait nécessairement, parmi les conditions à remplir, être un descendant de la famille du prophète, un descendant du prophète chinois, par le sang. Et comme le prophète n'avait plus qu'une seule fille, Fatima, et que cette fille avait épousé son cousin Ali, les descendants du prophète ne pouvaient être, ne pouvaient venir que de cette ligne-là. Et les partisans donc de cette doctrine ont dit que Ali et les enfants de Ali seuls avaient le droit de succéder au prophète. Et ainsi s'est constitué ce que l'on appelle l'islam chiite, c'est-à-dire l'islam des partisans de Ali. Chiite veut dire partisans, prendre le parti de ceux qui ont pris le parti de Ali. Et depuis donc 661, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le début d'une grande dynastie, depuis 661, il y a eu ce schisme entre les deux fractions de l'islam. Et alors les chiites ont effectivement développé ce que l'on peut appeler un clergé. En ce sens qu'il y a une hiérarchie, exactement comme dans l'Église, une hiérarchie de chefs religieux, qui va de l'ayatollah, le chef suprême, qui est le représentant de l'imam, spirituellement parlant, jusqu'à le petit curé du village, ce qu'on appelle le moula du village. Et cette hiérarchie, qui est parfaitement organisée, détient effectivement un pouvoir spirituel très fort, et ce pouvoir se concrétise exactement comme pour le clergé chrétien en Occident, également par une puissance économique, puisque ce clergé reçoit des dons et reçoit des impôts même des fidèles, et cela lui confère une possibilité d'action grâce justement à la puissance à la fois religieuse et économique qu'il détient. Et c'est ce qui fait la force particulière du clergé en Iran. C'est cette base économique et aussi cette tradition de hiérarchie spirituelle qui fait qu'il encadre la population des fidèles exactement comme le clergé chrétien encadre la population des fidèles. Tandis que dans l'islam soumis, cela n'existe pas. D'abord, il y a ce qu'on appelle des oulémas, c'est-à-dire des gens instruits dans les choses religieuses, des gens qui ont de la compétence dans les questions religieuses. Mais ce sont des oulémas qui n'ont absolument aucune espèce de pouvoir sur les autres. Et le pouvoir d'un ouléma, d'un alim, tient essentiellement à la réputation qu'il peut conquérir dans le village où il vit, dans le quartier où il vit, dans la région où il vit, par sa conduite morale et par son savoir. Il peut acquérir une réputation de quelqu'un qui a une conduite très conforme aux idéaux de la religion, et de quelqu'un qui a un savoir très étendu qu'il peut donner dans une école aux élèves qui vont recevoir son enseignement. C'est pas une réputation. Il n'y a aucune espèce de nomination d'un pouvoir quelconque. Et par conséquent, là, on ne peut pas parler de pouvoir. On peut parler simplement d'une autorité personnelle que les gens arrivent à avoir du fait, encore une fois, de leur style de vie et du fait de leur connaissance. Ce qui est, vous le voyez, totalement différent. Maintenant, ceci n'a pas empêché, bien sûr, dans les pays de tradition soumise, le développement certaines relations entre deux cinémas qui arrivent à se faire nommer à des postes de responsabilité et qui, de ce fait, par conséquent, ont partie liée avec les gouvernements officiels. Ceci est arrivé et ceci arrive de nos jours plus encore que dans le passé parce que les gouvernements actuels ont besoin, comme je vous l'ai dit, de légitimer leur autorité en recourant justement à des personnages religieux. Et c'est en ce sens qu'en Égypte, par exemple, le bastion traditionnel où se recrutent les ulémas parce que c'est là qu'ils reçoivent un enseignement, la fameuse pyramide qui est à l'Al-Azhar, joue un rôle important politique, mais ce rôle ne lui est conféré par aucune espèce d'autorité. C'est tout simplement tel gouvernement qui a besoin de s'appuyer sur la parole de ses savants et qui essaye d'avoir des relations de bon entente et de casser par conséquent l'assentiment de ses savants parce que ça renforce le pouvoir politique. L'autorité religieuse renforce le pouvoir politique. Par conséquent, en Iran, les choses se passent d'une manière entièrement différente et c'est ce qui fait que le clergé a pu jouer ce rôle politique et joue encore ce rôle politique important auquel nous assistons, mais qui ne peut pas avoir l'équivalent dans un pays comme l'Égypte ou dans un pays de tradition soumise.
Merci. Vous avez parlé de liberté, je ne pense pas que ma question soit en dehors du sujet. Pourquoi l'islam est-il tellement misogyne?
Oui, la question est pourquoi l'islam est-il tellement misogyne? D'abord, comme je vous l'ai dit, l'islam, comme toutes les religions, est une réalité sociale, ça n'est pas une réalité indépendante de la société. Donc, il ne faut pas s'exprimer en disant que l'islam est misogyne, pas plus qu'on ne peut dire le christianisme est pour ou contre ceci ou cela. Il faut considérer ce qui se passe dans les traditions de chaque société. Si par exemple vous prenez une société comme le Pakistan, vous avez dans le Pakistan des groupes ethnoculturels extrêmement variés, qui ont des traditions extrêmement anciennes, bien au-delà de l'islam, et là où vient l'Afghanistan. La façon dont ils traitent les femmes ne dépend pas nécessairement de ce que l'islam dit. Elle dépend beaucoup plus de traditions beaucoup plus anciennes vis-à-vis de la femme. Parce que vous n'ignorez pas tout de même que le statut de la femme, d'une façon générale, dans toutes les sociétés, est un statut qui est lié à des organisations essentielles des rapports de parenté et par conséquent à des organisations beaucoup plus anciennes que les religions elles-mêmes sur la façon dont la sexualité est contrôlée dans la société, sur la façon dont les mariages se déroulent, les alliances se déroulent dans une société, les stratégies matrimoniales obéissent à des données économiques, à des données sociales, à des données politiques qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc c'est dans cet éclairage beaucoup plus large, qui est un éclairage sociologique et anthropologique, qu'il faut essayer de voir la situation des femmes et non pas dans un éclairage historiquement restreint et historiquement récent qui est l'islam. L'islam, après tout, ne date que du 7e siècle, c'est très récent. Par rapport, encore une fois, aux institutions et aux coutumes relatives au statut des femmes dans les sociétés, aussi bien en Occident que dans les sociétés musulmanes. Donc, ce problème-là, il faut le voir essentiellement en relation avec l'organisation de chacune des sociétés. Et l'organisation de chacune des sociétés diffère. Par exemple, la société marocaine ne s'analyse pas de la même façon que la société indonésienne, ou que la société turque, ou que que la société des musulmans du RSS, etc. Il faut regarder le cas de chaque société. Maintenant, l'islam lui-même, quelle est sa responsabilité en tant qu'alors islam qui est intervenu avec une réglementation, un droit musulman, des prises de position par conséquent très précises, qui existent, il ne s'agit pas de le dénier. L'islam intervient dans une situation où la femme en Arabie était essentiellement considérée comme, dans beaucoup de sociétés, était considérée comme celle qui porte les enfants et qui doit par conséquent assurer la survie de la tribu et qui doit assurer en particulier la reproduction, si possible, d'enfants mâles et non pas d'enfants femelles. Alors vous allez me dire déjà comment la différenciation. Cette différenciation n'est pas absolument dirigée contre la femme en tant que telle. Elle est dirigée dans le sens de la nécessité pour la tribu de faire la guerre. Et pourquoi cette nécessité de faire la guerre? Parce que, comme je vous l'ai dit, la survie des tribus est liée à l'herbe qui pousse ou qui ne pousse pas selon qu'il y a de la pluie ou qu'il n'y a pas de la pluie. Mais comme nous sommes dans une région désertique et que la pluie est plutôt rare que fréquente, il arrive très souvent qu'il y ait des disettes. Et quand il y a des disettes, c'est la guerre, nécessairement, pour la survie. Et cette guerre ne peut être menée que par le plus grand nombre d'hommes possible. Et voilà pourquoi on préfère avoir des hommes plutôt que des femmes. Les femmes, on en a suffisamment uniquement pour assurer la reproduction. C'est la nécessité. Il ne faut pas projeter nos idées modernes sur des situations anciennes et sur des sociétés anciennes. Il est évident que ces idées-là vont laisser des traces. Elles vont laisser des traces dans les mentalités. Et ces traces, effectivement, nous les retrouvons dans la législation que l'islam introduit au sujet de la femme. Alors, les musulmans disent que l'islam a amélioré la situation de la femme par rapport à ce qui était auparavant. Historiquement, ceci peut être discuté. Ça peut être discuté parce que ça dépend de la façon dont on voit la situation de la femme dans la société. Mais je peux, je crois, sans risque ni d'apologie, ni de dénigrement vis-à-vis de la législation musulmane, je peux dire que l'islam a apporté une chose qui n'existait pas auparavant. C'est la reconnaissance du statut de personne, la personne humaine ayant une vocation spirituelle, exactement comme celle de l'homme. Et dans le Coran, chaque fois qu'il est question d'une adresse de Dieu aux hommes, il dit toujours croyant et croyante sur le même temps. Il ne sépare jamais les unes des autres. Autrement dit, il y a là une initiative extrêmement importante sur le plan de l'évolution de la notion de personne. Car la notion de personne est une conquête historique qui n'a pas été donnée du premier coup. Il suffit de penser, par exemple, au statut d'esclave qui a prédominé dans beaucoup de sociétés. L'homme n'a pas été considéré comme une personne humaine à vocation de liberté partout. L'esclavage a dominé et a existé dans plusieurs sociétés. Et c'est une conquête historique très difficile et très lente que celle de l'abolition de l'esclavage. De la même façon, la femme, dans beaucoup de sociétés, était considérée comme quelque chose d'inférieur sur le plan de la personne morale ou spirituelle. Bien, la position de l'islam sur ce point-là est sans ambiguïté. La femme est une personne, comme on dit, qui a une âme, une vocation spirituelle, etc. Et donc, sur ce plan-là, il y a effectivement l'évolution. Mais sur le plan de la législation, sur le plan matrimonial, sur le plan du statut juridique des relations entre l'homme et la femme, etc., le droit musulman a été influencé par la situation des législations anciennes en Mésopotamie, en Syrie, en Arabie, et dans chaque cas où les législateurs musulmans ont formulé le droit musulman, ils ont tenu compte, en formulant ce droit, des coutumes locales et de ce qui se faisait localement. Autrement dit, ils n'ont pas toujours réfléchi dans la perspective de cette vocation spirituelle que nous trouvons dans le Coran pour énoncer le statut juridique de la femme. Ils se sont laissés influencer par les traditions locales.